Merci Morgane et bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
De l'invisible et de l'au-delà, nous allons parler ce soir avec nos deux invités, auteurs de deux livres passionnants, Marie de Henzel, Vivre avec l'invisible, Philippe Charlier, Comment faire l'amour avec un fantôme. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera avec le Lacrimosa dans le Requiem de Mozart sous la direction de Montserrat Figueras. Ce Lacrimosa dans le Requiem de Mozart qui vous est cher à tous les deux. Pourquoi, Marie de Henzel ?
Je fais partie d'une chorale qui s'appelle Les Compères et qui a son programme cette année, le Requiem de Mozart. Et le week-end dernier, justement, nous répétions le Lacrimosa. Donc, ça fait tout à fait sens.
Et vous, Philippe Charlier, vous faites partie d'une chorale aussi ?
Oh non, il vaut mieux pas pour la musique. Non, dans ma première vie, si je peux dire et utiliser cette expression, quand j'étais médecin légiste pour la justice pendant 10 ans, j'écoutais assez souvent, de façon douce et légère, le Requiem de Mozart dans la salle d'autopsie. Parce que j'aime bien cette idée, je trouve ça d'abord, ça n'est pas un manque de respect pour les patients que j'avais sous le scalpel, et également ça permettait une bonne concentration, une atmosphère paisible, on chuchotait du coup à côté des patients au lieu de parler normalement, et ça introduit je dirais pas une sacralité, ni une religiosité, mais au moins une sorte de tampon respectueux autour du corps mort, et pour moi c'était extrêmement important.
Quand vous chantez le Lacrimosa, Marie de Henzel, vous êtes où ?
Je suis un peu au-delà de moi-même, effectivement. Reliée, c'est vrai, à toute cette, tout ce monde que j'ai côtoyé de très près, de personnes en deuil. Un sujet dont j'ai été très très proche pendant le confinement, effectivement, puisque tous les rites qui structurent notre rapport à la mort ont été interdits, hein, l'accompagnement, l'adieu au visage, le dire au revoir. Donc je suis effectivement très sensible, et particulièrement en ce moment, avec toutes ces personnes, ces milliers de familles qui sont dans des deuils impossibles à faire. Et c'est vrai que quand je chante quand le Lacrymosa, je me sens reliée.
Et vous, Philippe Charlier, vous aviez dit que malgré votre jeune âge, vous aviez plusieurs vies. Vous êtes médecin légiste, mais vous êtes aussi anthropologue, auteur de nombreux livres ayant trait justement à l'au-delà, à l'invisible, aux rites, aux traditions des sociétés non occidentales. Comment vous vous sentez relié ?
Moi, je suis éminemment matérialiste et par les objets qui sont à la fois au musée du Quai Branly Jacques Chirac où je travaille, mais également dans d'autres institutions, voire même toujours et heureusement in situ, en Afrique, dans le monde caribéen, en Asie, eh bien ces objets permettent justement cette fixité du rapport entre les vivants et les morts. Et même au-delà des morts, entre ce qu'on appelle en anthropologie les extra-humains, c'est-à-dire les esprits, les revenants, les divinités, on pourrait dire les anges ou autre chose. Tout ce qui n'est pas stricto sensu humain. Et donc, comme Marie, j'ai non pas des sensations, mais moi, j'ai une interprétation anthropologique de ce lien qu'on n'a pas envie de couper entre les vivants et les morts. On dit les disparus. Disparus, c'est pas qu'ils sont disparus, c'est pas qu'ils sont morts au sens de « ils n'existent plus », ils ont juste changé de dimension. Les voir, les apercevoir, s'entretenir avec eux est juste devenu, pas forcément difficile, mais différent.
Qu'est-ce que l'invisible pour chacun d'entre vous, Marie de Henzel ?
J'ai toujours du mal à trouver une définition autre que celle qui est très courante, qui est ce qu'on ne voit pas. Parce que je me rends compte que le champ, enfin le spectre de l'invisible est très très large. Hein, ça va des rêves, par exemple. Quand on rêve, c'est évidemment, on est en contact avec l'invisible. Ça passe par l'intuition, la petite voix intérieure que l'on a en soi, par ce que l'on perçoit autour de soi, l'énergie des lieux. Particulièrement l'énergie aussi des autres. Je veux dire que je pense à un danseur par exemple qui me dit l'invisible c'est ce qui est entre nos deux plexus, entre ton plexus et le mien, c'est ce qui est entre. J'aime beaucoup cette définition, ce qui est entre, ce qui fait lien en fait. Et puis bien sûr il y a aussi la relation avec ce que j'appelle la bande d'invisibles que chacun peut avoir, ses anges, c'est une figure spirituelle aussi, mais beaucoup de morts hein, qui sont effectivement, comme vous le disiez, ils ont disparu du champ de vision, hein, mais ils sont toujours là, dans la pensée, dans l'imaginaire, dans le cœur, dans l'esprit, ils sont présents. Voilà, c'est tout cela. Donc c'est un spectre très très large et chacun a un lien avec l'invisible dans un de ces domaines, ou peut-être tous. Il y a des personnes qui sont pas sensibles à certaines choses et puis hypersensibles à d'autres aspects de l'invisible.
À chacun son invisible, en quelque sorte.
Oui, on pourrait dire ça.
Mais est-ce qu'on s'éduque à la possibilité de l'invisible ou est-ce que c'est par nature qu'on est plus proche de l'invisible, selon vous, Marie ?
Moi, en tant que psy, je me suis beaucoup intéressée, je dirais, à l'école kleinienne qui a parlé de ce qu'on appelait le noyau psychotique, c'est-à-dire cet endroit dans la psyché dans lequel, effectivement, on est très, très proche, je dirais, de l'inconscient. On est hors du réel. Il y a un endroit en nous que nous avons connu au début de notre vie. Les enfants sont très proches et ils ont cette expression que j'adore. Ils disent mon savoir du dedans. Ils expriment ce qu'ils sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis en grandissant, bien sûr, dans le monde rationnel dans lequel nous sommes, on adopte d'autres codes. On ferme, en fait, ce rapport à cet endroit en soi dans lequel, effectivement, on sort de l'espace-temps. Sauf que quelques êtres sont moins coupés que d'autres. Il y a des passerelles. C'est le cas des personnes hypersensibles. C'est le cas aussi des médiums ou des voyants qui sont des gens qui ont simplement une intuition un peu plus développée que les autres. Donc, je pense que c'est là au départ de notre vie. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'à la fin de la vie, cette porosité aussi revient, c'est-à-dire qu'on est, je me suis aperçue que les mourants étaient très très proches de perceptions, ils ont des perceptions qu'ils n'avaient pas avant, et peut-être parce que justement ils approchent de la frontière de la mort. Je me souviens que dans le service de soins palliatifs où je travaillais, c'était assez fréquent des personnes qui me disaient, tiens, j'ai vu mon père, ma mère dans la chambre, dans cet angle, et c'était des personnes qui n'étaient pas du tout psychiatrisées, hein, comme on dit, pas du tout. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose comme si on revenait à un esprit d'enfance, on pourrait dire aussi.
Vous, Philippe Charlier, vous avez dit tout de suite, d'emblée, que vous étiez matérialiste. Vous êtes l'auteur de nombreux livres ayant trait, justement, à la compréhension des rites et des traditions de sociétés qui, par leur masque, par leur théâtre, par leur convocation des esprits, pratiquaient avec nécessité et vitalité en même temps, justement, le rapport avec l'invisible. Quelle serait votre définition, vous qui publiez ces jours-ci un livre incroyable qui s'intitule « Comment faire l'amour avec un fantôme », mais le sous-titre, c'est « Anthropologie de l'invisible ». Vous êtes donc un anthropologue de l'invisible. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup de votre acabit, ni de votre espèce.
On n'est pas très nombreux, mais là, la double spécialité du médecin et de l'anthropologue est assez intéressante, parce qu'on s'intéresse vraiment à tout ce qui a trait à la mort, à l'agonie, et aussi à cette autre existence qui est l'après-mort dans ces civilisations extra-occidentales. Pour répondre à votre question, Laure, l'invisible pour moi, c'est quelque chose qu'on voit mieux quand on a les yeux fermés. Et ça, on peut fermer ses yeux avec des masques, on peut fermer ses yeux en profitant de la nuit, et donc du coup on ne voit strictement rien d'humain, mais on s'ouvre à l'irréel, au surréel, à l'invisible en l'occurrence. Et ça peut passer par des masques, d'où cette matérialité, ça peut passer par des médiums au sens non pas d'une personne inspirée par les esprits, mais d'un objet qui sert de lien entre le monde des vivants et le monde des esprits. Voilà, le masque No, par exemple, ce masque de théâtre japonais qui est un théâtre spirituel, religieux, très très proche d'un théâtre religieux qu'on aurait pu voir dans la Grèce archaïque ou ailleurs, par l'intermédiaire de ce masque souvent blanc, je pense notamment au masque Zoona, ce masque d'une jeune femme magnifique, eh bien l'acteur de théâtre No va, dans une sorte de cabinet de réflexion, rester pendant des heures face à ce masque, se laisser pénétrer psychiquement, spirituellement, par l'esprit du mort, le fantôme en l'occurrence, et ensuite il va aller sur scène avec une démarche tout aussi fantomatique, et là la scène va devenir du profane au sacré, et le fantôme va être là pour essayer de résoudre, par la multiplication de ses représentations théâtrales, résoudre un conflit ancien. On est ici également dans une anthropologie psychanalytique, par la répétition d'une gestuelle, de paroles et autres, et bien un conflit qui est vieux de plusieurs centaines d'années va au fur et à mesure se résoudre jusqu'à son acceptation, sa digestion et la paix qui est l'effacement de toute chose.
Donc en tant que rationaliste, vous croyez à l'invisible ?
Je le crois parce que je le vois sur le plan anthropologique. Toutes les civilisations sur lesquelles je travaille, que ce soit le monde afro-caribéen, Haïti principalement, au Bénin, au Cameroun, ou encore en Asie du Sud-Est, je vois cet invisible qui est démultiplié avec une vision kaléidoscopique par tous ces objets. Donc l'invisible devient palpable et sensible grâce à ces objets.
Je vous propose d'écouter la voix d'un anthropologue que vous connaissez, qui s'appelle Philippe Descola, et qui depuis des décennies travaille justement grâce à son métier et sa pratique anthropologique à l'autre bout du monde sur la reconnaissance de l'invisible. D'ailleurs, son dernier livre publié à l'automne s'intitulait « Les formes du visible ». Je vous propose de l'écouter, c'était en 2006, au micro de Jacques Munier.
Chaque individu a les moyens d'entrer en communication avec les non-humains, pour l'essentiel par le rêve, mais aussi par quelquefois des transes qui sont suscitées par l'usage de substances psychotropes qui ne sont pas réservées aux chamans. Et les chamans exercent en quelque sorte cette médiation de façon plus visible, en ce sens que ils ont notamment pour tâche des fonctions thérapeutiques. qui sont elles aussi distribuées dans la société, mais qui pour les cas les plus graves en quelque sorte requièrent la présence de quelqu'un qui a subi une initiation et qui a donc est réputé avoir un rapport plus direct et immédiat et une sphère d'influence en quelque sorte plus grande dans le monde des esprits. Mais je voudrais souligner que le monde des esprits n'est pas un monde séparé du monde ordinaire. On a très souvent tendance à dire qu'il y a d'un côté le monde de la réalité et d'autre part le monde des esprits invisibles. C'est vrai qu'il est invisible la plupart du temps. Mais cela dit, ce monde des esprits, il est perçu par les gens qui y vivent comme étant un monde immanent. Les esprits sont partout. Les non-humains avec lesquels on dialogue et qui ont des âmes humaines sont partout. Donc c'est une sociabilité générale en quelque sorte et qui peut être, vous parliez de sagesse profane, qui peut être aussi extrêmement conflictuelle. Vivre dans un monde d'esprits, c'est pas une chose qui est facile tous les jours.
Alors c'est peut-être pas facile, mais c'est plus facile quand on n'est pas un occidental. Comme vient de le dire Philippe Descola, le monde des esprits et le monde des non-humains avec lequel nous pouvons cohabiter de manière naturelle dans des civilisations dites traditionnelles, nous font penser que peut-être dans notre société occidentale, nous avons été coupés, et ce depuis de nombreux siècles, avec cette conversation secrète, Marie de Henzel. On nous aurait amputé de nos capacités cognitives, d'une certaine façon.
Oui, parce que nous sommes dans un monde rationnel. Il y a une explication de l'univers qui est rationnelle, mais rien ne nous prouve que l'univers répond seulement aux règles de la raison. C'est en écoutant Philippe Descola, je pensais justement, il dit ce que Rilke disait, que j'ai cité au début de mon livre, c'est-à-dire cette phrase qui m'avait été rapportée par Stéphane Hessel, « Nous sommes encadrés d'invisibles ». C'est ça partout, effectivement. Aujourd'hui, les gens le sentent, le perçoivent. C'est souvent d'ailleurs assez palpable. Et ils ont des expériences, c'est plus de l'ordre de l'expérience que de la croyance, hein. Ça leur tombe dessus, et ils se sentent très seuls, ils n'osent pas en parler, ils gardent, c'est très intime, très secret, parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, ils ont peur qu'on leur dise « tu fabules », et même dans une même famille, il y a ceux qui sont sensibles, qui ont des perceptions, d'autres qui sont très rationnels, et les gens se sentent très seuls. Et ce qui m'a frappé dans mon cabinet, quand j'ai commencé après cette phrase que j'avais entendue il y a plus de 20 ans, j'ai commencé à être à l'écoute de ce que mes patients me racontaient. J'ai senti qu'ils pouvaient me raconter parce qu'ils se sentaient protégés, je dirais, par la confidentialité de mon cabinet, que c'était, mais que ailleurs ils n'osaient pas raconter leurs histoires, qui sont parfois des histoires à dormir debout.
Philippe Charlier, vous qui, en tant qu'anthropologue donc de l'invisible, avez l'habitude de converser silencieusement avec des masques ou des objets rituels qui entretient ce lien fécond avec l'invisible, pensez-vous que dans notre société occidentale, avec la rationalisation et peut-être même avec le siècle des Lumières, ça a peut-être commencé avec le siècle des Lumières, il y a eu une domestication et peut-être une manière de réfréner notre capacité avec l'invisible?
Le monde de l'invisible est devenu encore moins visible et il s'est caché au fur et à mesure avec en effet l'apparition du siècle des Lumières, avec l'apparition surtout de la science omnipotente. Cette sorte de scientisme, de positivisme qui a vraiment investi tous les différents champs de l'espace. Ça c'est dès le 18e siècle et principalement au tout début du 19e siècle, vers quoi la population qui veut entretenir encore ce rapport avec l'invisible va-t-elle se tourner? Eh bien vers le spiritisme. C'est en fait en réaction contre cette science qui investit tout. Il y a une chose que la science ne peut pas encore, à l'époque, investir, c'est la mort et l'autre monde. Et donc du coup, le spiritisme, né spiritualisme aux États-Unis, va essayer d'entretenir ce rapport avec les esprits, avec les non-morts, avec ces fluides très difficilement palpables, et on va utiliser des médiums, on va utiliser la peinture, on va utiliser des tables de Ouija. Et puis, au fur et à mesure, la science va frapper à la porte du spiritisme en disant « Mais attendez, on est là aussi pour vous aider à prouver que ce que vous dites est vrai. » Et donc, on va se mettre ensuite à enregistrer les voix des oiseaux et à décrypter dans les voix des oiseaux les paroles des morts. On va ensuite faire de la photographie spirit, avec malheureusement beaucoup de faux, mais quelques clichés qui sont authentiques et difficilement explicables. Ensuite, la mesure de la température, ensuite le cinéma, etc., etc. Donc la science a chassé le merveilleux, si on peut dire, dans les limites de on va dire de la société occidentale. Et puis ensuite, eh bien, la science a été au service de la tentative d'explication et de réhabilitation de ce merveilleux. Il y a vraiment des mouvements de va-et-vient.
Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Derrida, le philosophe, qui va répondre à une question qui, pour vous, est simplissime, tous les deux, aussi bien Marie de Henzel que vous, Philippe Charlier. Est-ce que vous croyez aux fantômes? On écoute la voix de Jacques Derrida. C'était dans le film Ghost Dance de Ken Macmillan.
Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit au fantôme? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Le cinéma est un art d'une fantomachie, si vous voulez. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir les fantômes. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc, si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu. Tout ça, c'est une... Aujourd'hui, ça doit se traiter, me semble-t-il, dans un échange entre l'art du cinéma, dans ce qu'il a de plus inouï, de plus inédit finalement, et quelque chose de la psychanalyse. Je crois que cinéma plus psychanalyse égale science du fantôme.
Science du fantôme, mais j'ai de la chance moi, parce que je suis avec deux spécialistes scientifiques des fantômes. Alors j'ai deux questions à vous poser. Je pensais que la première c'était croyez-vous aux fantômes? Non, la première c'est êtes-vous des fantômes tous les deux, Marie de Henzel? Êtes-vous une fantôme? On peut peut-être dire ça au féminin.
Peut-être, je ne sais pas. Bon, est-ce que dans votre question, Laure, vous voulez dire est-ce que quelqu'un de mort peut, je dirais, m'investir à certains moments, effectivement, parler à travers moi, est-ce que je peux effectivement être, pourquoi pas? Je pense que psychanalytiquement, quand même, le fantôme, c'est cette pensée que l'on a. C'est d'abord la pensée, ensuite quelquefois ce sont des sensations d'un mort, quelqu'un qui vient de mourir et qui hante quelquefois les pensées du jour, mais aussi les rêves la nuit et qui reviennent parce que il y a quelque chose qui n'a pas été apaisé. Alors donc c'est le mot de paix que vous avez employé tout à l'heure est très vrai. Il semble que le fantôme vient pour dire quelque chose ou pour régler quelque chose qui n'a pas été réglé. Et c'est la raison pour laquelle il faut parler aux morts. Il faut leur parler, se mettre en paix avec eux. Et c'est vraiment dans les rituels que l'on propose aux personnes endeuillées, on leur propose justement de mettre la photo d'un mort, de mettre une bougie, un symbole, et puis de parler. Et on s'aperçoit après que, eh bien, cette pensée comme finalement disparaît. Ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas, mais ça n'est plus obsédant. Et puis, alors, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est les témoignages de personnes qui disent qu'elles sentent vraiment, elles perçoivent. Je pense par exemple à Noël Châtelet qui, dans son livre Madame Georges, parle de cette femme veuve qui sent, qui parle à son psychiatre en disant « Mais je sens mon mari la nuit à côté de moi, je le sens, c'est une présence palpable. » Et cette expérience, elle est très fréquente. Alors, on va parler d'hallucination, mais en fait, les gens le vivent comme une présence réelle. Hein, c'est vraiment quelque chose...
C'est le principe même d'une hallucination, de sentir quelque chose de réel.
C'est, bien sûr. Mais c'est un... Et il y a donc y a quelque chose donc de l'ordre de la perception dont les personnes témoignent.
Alors vous, Philippe Charlier, êtes-vous un fantôme ou êtes-vous un docteur S-fantôme?
C'est plutôt vous, Laure, qui êtes en train de nous transformer en fantômes.
Une
chose
Ah bon?
Oui, une chose est certaine, par cette voix justement, voilà, cette voix que vous êtes en train d'enregistrer de nous, dans le vaudou ou dans d'autres religions extra-occidentales, la voix c'est une partie immatérielle de l'individu, mais il y a un peu de l'individu dedans. Et dans 3 jours, dans 6 mois, dans 15 ans, quand je serai mort, cette voix continuera encore d'exister.
Et vous avez quel âge? Vous êtes très jeune, vous avez vie devant vous.
Oui, vous êtes gentil, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va tomber. C'est une des grandes inconnues de l'existence. Mais merci de vos bons voeux. Cette voix, malgré tout, va rester encore après. Et l'image également.
Ça pourrait être dangereux pour vous, pour votre existence.
Dangereux, pas du tout. Mais en fait, ce sont des fantômes. Ce sont des fantômes. Nos voix, notre image filmée également, Derrida le disait, il avait entièrement raison, ce sont des petites parts de lui qui vont rester après. Et maintenant, Derrida, au moment où il enregistrait ce film, et cette voix n'était pas encore un fantôme. Maintenant, il l'est devenu, par l'intermédiaire du cinéma, où c'est une vision totalement anthropologique de la chose. Mais c'est une vision qu'on peut totalement calquer. Pourquoi est-ce que dans beaucoup de civilisations, on ne veut pas se faire prendre en photo? Pourquoi est-ce que dans beaucoup de civilisations, on ne veut pas signer un papier? Pourquoi est-ce que, quand je vais au Bénin, par exemple, à Abomey, pourquoi est-ce que, quand on va se faire couper les cheveux ou qu'on se coupe les ongles, on récupère nos ongles et nos cheveux pour ne pas qu'il y ait de magie faite autour de ça?
Dans les campagnes françaises, ma grand-mère me disait la même chose. Donc ça perdure, ce genre de tradition.
Ça perdure, ça existe, et en effet, pas si loin de nous que ça, tout à fait. Dans l'évangile des quenouilles, par exemple, qui a été présenté par la carrière, donc on est dans le bocage, eh bien, ce genre de pratique est extrêmement fréquente aussi. Donc voilà, on a à la fois une peur du... On a une peur des autres fantômes, on a une peur de devenir soi-même fantôme, mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, avec les photos de mariage, avec les photos des enfants, avec les voix quand on passe sur France Inter un lundi soir, ou autre chose, eh bien, on a de cette même façon une formation, une création de fantômes qui ensuite vont nous échapper. Donc je ne suis pas un fantôme, mais je suis en train de le devenir grâce à vous.
Mais Derrida dit qu'on est une multiplicité de fantômes, c'est-à-dire qu'on peut l'interpréter de différentes manières, mais aussi par l'idée qu'à l'intérieur de nous, nous avons une part fantomatique de nos disparus qui vivent à l'intérieur de nous.
Oui, et ils vivent à l'intérieur de nous, c'est vrai, puisque, comme vous dites, on entend leur voix, on lit ce qu'ils nous ont laissé aussi, on a leurs objets. Mais vous voyez, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que les personnes, plus elles vieillissent, plus elles sentent qu'elles vont être des fantômes aussi. Et alors, c'est très important, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on transmet. Justement, c'est la question de la transmission. Qu'est-ce que je vais laisser aux gens que j'aime, aux générations plus jeunes.
Mais laisser, c'est ne pas disparaître, justement. Oui. C'est une façon de lutter contre la mort. La vraie mort, c'est l'oubli. Ouais, c'est l'oubli. Ça. Et donc, transmettre, c'est ne pas mourir totalement, en fait. C'est une sorte de contre-pouvoir, de contre-destinée. Et je pense que c'est ça, la question ultime. C'est non pas repousser la mort, mais c'est faire en sorte qu'on ne meure pas totalement.
Voilà.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Philippe Charlier, Strange Fruits, interprété bien sûr par Billie Holiday.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Mm-hmm. pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Votre mari avait-il des raisons professionnelles ou sentimentales de disparaître?
Non.
De se suicider? Avez-vous remarqué un comportement dépressif ou vous avez-il parlé d'une lassitude, d'une envie d'en finir?
Non.
Nous allons maintenant être obligés pour l'enquête judiciaire de vous demander une description physique très précise du disparu, votre mari.
Jean? Tu es là?
Nous venons d'entendre un court extrait de ce film magnifique signé François Ozon, qui s'intitule Sous le sable et où l'héroïne principale, interprétée d'ailleurs de manière bouleversante par Charlotte Rampling, je ne sais pas si elle a décidé ou si ça lui est tombé dessus. Son mari est mort, il a disparu dans la mer. Elle ne s'est pas rendue compte de sa disparition. Elle ne l'a pas vu. Elle somnolait. Elle faisait la sieste sur le sable. Et est-ce qu'elle a décidé ou est-ce qu'elle vit toujours avec son mari alors que tous les amis, la famille viennent lui dire « Mais il est mort, il est mort, il est mort !» Ben non, il est toujours là. Comment vous l'interprétez, cette histoire-là, Marie de Henzen?
Toute mort, toute disparition brutale fait que entraîne ce type, je dirais, de sentiment que l'autre n'est pas mort, est toujours là. C'est très difficile de faire son deuil, en fait, cette expression, c'est-à-dire d'accepter finalement la réalité, surtout quand quand c'est brutal. Il faut un temps pour cela, et c'est un temps pendant lequel justement il y a ces fameuses hallucinations, les rêves, les personnes viennent dans les rêves, enfin il y a une vraie vie avec le mort, les perceptions dont je parlais tout à l'heure, perceptions physiques, et puis avec le temps, évidemment ça s'estompe, parce qu'il faut le temps d'accepter la réalité de la disparition.
Alors vous, Philippe Charlier, à l'intérieur de ce dernier ouvrage et des ouvrages précédents, on a l'impression que ce qui doit revenir est enclos à l'intérieur de représentations traditionnelles, de possibilités d'entrer en contact. Mais est-ce que c'est une décision d'entrer en contact avec celui ou celle qui a disparu ?
C'est pas une obligation. Pour rentrer en contact, soit le mort peut décider d'entrer en contact avec vous.
Ah, c'est le mort qui décide alors. Il peut décider. Le vivant.
Il peut décider. Je vous donne un exemple. J'étais
Tout à l'heure, vous avez utilisé une drôle d'expression.
Dites-moi.
le non-vivant, oui, au lieu de dire le mort. Pourquoi ?
Ah, le non-vivant. Parce que mort, ça signifie, pour moi, le mort, c'est quelqu'un qui n'existe plus, qui est totalement rayé de la carte. Le non-vivant, c'est quelqu'un qui entretient encore un rapport avec les humains, la communauté des vivants, ou avec la nature, ou voilà, mais qui n'a pas entièrement disparu. Et donc, je suis au Bénin, sur la route, en voiture, et Constant, qui est juste à côté de moi, son téléphone portable sonne. Numéro masqué. Et il met le haut-parleur parce qu'il conduit, il est sérieux, et là on entend une voix nasillarde qui parle pendant des minutes et des minutes. Et Constant juste qui hoche la tête. Et ensuite il raccroche. Je lui dis, bah dis donc, t'as pas beaucoup parlé avec cette personne-là? Et oui, il me dit, oui, c'est mon grand-père. Et qu'est-ce qu'il te racontait? Ah bah il me donnait des conseils sur la vie, des choses comme ça. Je dis, bah il a quand même une voix bizarre, ton grand-père. Il me dit, bah oui, c'est normal, il est mort depuis 15 ans. Et donc voilà, c'était le mort, c'était le fantôme de son père, de son grand-père pardon, qui l'appelait pour lui donner des conseils, lui dire sors pas avec cette fille-là, tu devrais insister auprès du boulot, fais telle chose, etc. Que ça soit vrai ou faux, je m'en moque. Donc je répondrai pas à cette question de est-ce que les fantômes existent ou pas, et vous ne me l'avez pas posé, merci. Mais moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi les gens y croient. Et en l'occurrence, c'était un revenant au sens vaudouisant du terme, c'était un vieux, dans le bon sens du terme, un ancêtre, qui dispense des bons conseils ou autres. Donc, les morts peuvent avoir envie d'entrer au contact avec les vivants pour les guider. Et puis, de la même façon, les vivants peuvent aussi avoir envie de faire un pas vers les non-vivants, vers les revenants. Et dans ce cas-là, ils vont rentrer, toujours au Bénin, dans le Vaudou, dans ce qu'on appelle des sociétés secrètes. Je pense aux Egungun, qui sont ces sociétés secrètes où, par différentes étapes de progression spirituelle, eh bien, on arrive à revêtir des costumes, faire des danses et des mascarades qui rapprochent des défunts et qui permettent aux défunts de rentrer à l'intérieur de l'esprit de ces initiés et d'interagir avec la communauté des vivants. Donc la frontière entre la mort et la vie est une frontière qui est poreuse. Et en fait, la mort, elle ne s'oppose pas à la vie. La mort, elle s'oppose à la naissance. La vie, elle est tout le temps là, c'est juste qu'elle change de forme.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase-là. La mort ne s'oppose pas à la vie, à la naissance, effectivement. C'est tout à fait... J'ai eu la semaine dernière un témoignage d'une personne proche qui a perdu son père il y a quelques mois et qui m'a téléphoné en me disant je suis bouleversée parce que c'est quelqu'un qui médite. Hein, à la fin de ma méditation, j'ai vu mon père à côté de moi. Et me dit-il, en chair et en os, il me dit cela, en chair et en os, c'est-à-dire que c'était pas une vague ectoplasme qui était, il était là. Il sentait sa chaleur il est venu donc lui parler et lui dire des choses qui étaient très signifiantes pour lui. Donc, ce que m'a dit cette personne, m'a dit j'ai eu un moment de panique totale quand c'est arrivé. Et puis, un grand apaisement. Là aussi, c'est assez étrange, hein, c'est l'apaisement qui suit tout de suite. Donc, ce type d'expérience, évidemment, elles sont assez fréquentes.
Mais ce que vous racontez et ce que vous décrivez de manière passionnante, Philippe Charlier, ça se passe lors de rites. Sauf l'histoire avec votre copain. Mais dans notre société occidentale, et c'est ce que Marie de Henzel fait depuis maintenant 2 décennies, ça se passe individuellement. Est-ce que c'est pas beaucoup plus harassant pour l'individu occidental de se faire visiter par l'invisible, quelle que soit la forme qu'il prenne,
que dans des
sociétés où tout ça est traditionnellement cohérent, explicable?
En Occident, on a un peu perdu cette habitude. Et pourtant, dans la communauté chrétienne, catholique, romaine, les âmes du purgatoire investissent sans arrêt le champ de la vie. Il y a à Rome un musée, juste à côté du ministère de la Justice et du palais de justice, il y a un musée de l'existence, des preuves de l'existence du purgatoire. Et vous avez énormément d'objets, endroit génialissime, et vous avez plein d'objets qui sont des tasses, qui sont des vêtements, qui sont des livres ou des lettres qui ont été touchés par les flammes émanant de ces fantômes qui sont les âmes du purgatoire, demandant aux vivants de prier pour eux pour qu'ensuite, enfin, ils puissent franchir les portes du paradis. On a un peu perdu maintenant, mais c'est toujours bien présent en Italie, à Rome et surtout à Naples, ce culte des âmes du purgatoire. Mais sinon, c'était quelque chose quand même d'assez fréquent. Ce merveilleux, non pas au sens des contes enfantins, mais ce merveilleux au sens de quelque chose qui est difficilement explicable par la raison, mais qui s'explique beaucoup plus par le sentiment personnel, cette conscience à l'intérieur de nous, comme disait cet enfant dont vous avez le soin en cours, et également ce qui s'explique par la religion, ça c'était quelque chose qui était beaucoup plus présent, beaucoup plus accepté. Malheureusement, ça se perd un tout petit peu. Est-ce que c'est bien ou mal? Je ne sais pas, mais ça se perd.
Je voudrais vous faire écouter la dernière allocution d'un ancien président de la République, que Marie de Henzel a très bien connu. Il s'appelait François Mitterrand et lorsqu'il a quitté le palais de l'Élysée, il a écrit un discours. C'était le 31 décembre 1994. Nous allons écouter la fin de ce discours.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je forme ce soir des vœux pour vous tous en m'adressant d'abord à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont loin de chez eux. Bonne année, mes chers compatriotes. Bonne année et longue vie. Vive la République, vive la France.
Alors là où je serai, comment interprétez-vous ce « là où je serai » que vient de prononcer François Mitterrand, Marie de Henzel?
D'abord, merci d'avoir, Laure, vous qui l'avez bien connu aussi, d'avoir passé ce passage.
Mais qui est bouleversant,
qui est toujours aujourd'hui bouleversant. Et là où je serai, bien sûr, François Mitterrand avait une expérience de l'invisible. Et d'ailleurs,
Qu'il était tout petit, je crois.
Il avait un sixième sens, me disait-il. Qui s'était un peu atténué, mais il avait un sixième sens enfant. Et par exemple, il me disait que le soir, avant de s'endormir, il convoquait tous ses morts. C'est-à-dire qu'il ne s'endormait jamais sans penser. Et sa mère d'abord, qui était très importante et qui était très croyante aussi, et qui avait dit à son confesseur « j'offre mes souffrances pour l'âme de François ». Et il m'avait dit « vous rendez compte, ce don est un don qui m'oblige ». Donc effectivement, il avait ce rituel de tous ces morts avec lesquels il se sentait relié. Et donc, lui, là où je serai, pour lui, je dirais la vie, justement. La mort n'est pas l'opposition de la vie, mais un passage. D'ailleurs, un passage dont il disait volontiers que c'était complètement mystérieux. Et mais il sentait bien. Il disait d'ailleurs, je ne crois pas avec ma tête. Mais il mettait sa main sur le cœur et il disait, c'est ici que je sens. Je me sens plus mystique, c'est-à-dire j'ai une perception de cet invisible plutôt qu'une croyance. Et donc ça ne m'étonne pas. Je sais que cette phrase d'ailleurs qu'il a dite dans son cabinet, il me l'a dit ensuite, on avait essayé de la lui faire enlever, c'est-à-dire en disant mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est-à-dire, on voit bien que dans son entourage politique, c'était quand même une phrase assez étrange. Mais il a tenu à la dire et de témoigner de quelque chose qui était aussi son rapport, son lien avec l'invisible.
C'est très intime. Très intime.
Là où je serai, comment vous l'interprétez, vous?
Moi, je le mets en écho à une autre réponse qu'il avait donnée, cette fois-ci à Jacques Chancel, si je ne me trompe pas. Que voudrais-tu que Dieu te dise quand il t'accueillera au paradis? Et je crois qu'il avait répondu, maintenant tu sais. Et voilà, là où je serai.
Maintenant tu sais. Comment vous l'interprétez? C'est très énigmatique
aussi. C'est très énigmatique, mais enfin, pardon, Mitterrand est un sphinx pour moi, mais avec les qualités qu'on peut reconnaître à ce donneur d'énigmes, mais qui ne donne pas la réponse, justement. La réponse, on l'aura de l'autre côté. Voilà, j'ai hâte de connaître la réponse aussi, mais d'un autre côté, j'ai aussi hâte de faire mon temps sur Terre. Donc, d'où tout l'intérêt de l'anthropologie, d'avoir énormément de réponses, d'autres personnes qui ont fait cette expérience du passage, et pour Marie de Henzel également, l'expérience de la psychologie, de la psychanalyse, et parfois un peu de la psychiatrie aussi, qui ouvre d'autres portes, d'autres fenêtres.
Et les forces de l'esprit?
Les forces des esprits, voilà. la force des esprits. C'est comme ça que je l'interprète. Les esprits, ce sont toutes ces entités qui sont autour de nous, qui grouillent, qui interagissent, qui parfois ont besoin d'objets, comme vous l'avez dit, pour faciliter leur élocution et leur compréhension. Ces esprits, comme je l'ai indiqué avec d'autres exemples, qui peuvent être la population Dogon, par exemple, au Mali ou d'autres, ils donnent des paroles qui sont de confuses paroles, comme dirait Baudelaire. Eh bien, c'est toute la charge des initiés de transformer ce chaos en quelque chose de bien ordonnancé, de bien compréhensible. Voilà, le chaos, pour les esprits, c'est un ordre pour l'initié.
Avons-nous délégué en Occident ce pouvoir de l'invisible aux artistes? Je veux parler des peintres, des poètes, des écrivains. Je vous propose d'écouter la voix d'Antonio Tabucchi, grand écrivain italien, qui va répondre à la question « Les rencontres se font-elles dans la réalité ou dans le ciel ?» C'est une archive INA du 20 janvier 1998.
Je pense que peut-être la littérature peut créer une certaine métaphysique. Mais je voudrais dire très simplement qu'elle ne m'appartient pas. Elles appartiennent peut-être au lecteur qui possède une imagination parfois plus grande que l'écrivain. Moi, je me contente d'une métaphysique de poche. C'est-à-dire, je vis ma vie sans une intention d'un autre monde dans lequel je ne crois pas. Je suis un laïc. Je pense que le sens de la vie humaine appartient à la Terre, au monde que nous vivons et à la vie que la nature ou la déité nous a donnée. Donc je me contente de ça, je la défends. C'est la chose la plus importante pour moi.
Nous venons d'entendre la voix d'Antonio Tabucchi, qui effectivement dans son écriture était visité par des forces de l'esprit, pour paraphraser François Mitterrand. Dernière question qui s'adresse à vous deux. Pensez-vous, et d'ailleurs Marie de Henzel, dans votre beau livre qui vient de paraître ces jours-ci, vous parlez, pour paraphraser Rilke, des abeilles de l'invisible, je crois, très belle expression. Est-ce que nous pouvons, nous, faire plus attention à notre intuition, et avons-nous encore les capacités aujourd'hui, fin 2021, de faire appel à toutes ces puissances qui permettraient que notre vie soit peut-être plus intéressante? Marie de Henzel.
Oui, plus intéressante, plus poétique peut-être aussi, effectivement. Je crois que c'est... nous avons... quelque part d'ailleurs je reprends la phrase de nous guérissons de la blessure rationnelle, hein, parce que finalement peut-être qu'en ce moment on est en train de s'ouvrir à d'autres l'idée que justement on peut être inspiré. Parce qu'au fond, ce qui est dit dans l'art, dans l'écriture, on sent bien que l'inspiration, on ne sait pas d'où ça vient, hein, mais on est traversé, hein, par quelque chose, une force, et que je trouve que les gens sont très sensibles à ça en ce moment, peut-être parce que nous sommes dans une période d'incertitude très grande, dans une période d'angoisse quand même, hein, collective, hein, qu'elle lire tout ce qu'on entend, pas seulement chez les âgés, mais chez les jeunes aussi, et qu'il y a comme un besoin de s'ouvrir à autre chose, hein, de faire tomber ces barrières. Hein. Voilà ce que je sens.
Philippe Charlier.
Les Grecs de l'Antiquité disaient que les morts étaient les plus nombreux. Ils les appelaient comme ça, les plus nombreux.
Ils sont encore plus nombreux maintenant.
Oh oui, de jour en jour, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et malheureusement à cause de la Covid et d'autres choses. Donc on a intérêt, oui, à ne pas les oublier, à entretenir toujours un rapport avec eux. Quand on va au musée du Louvre ou ailleurs avec mes enfants, je leur fais lire à voix haute le nom des morts sur les épitaphes des stèles grecques et romaines. Et grecs, ils ont un peu du mal, romaines, c'est plus simple. Et je me dis qu'il n'y a pas de plus beau cadeau à faire à un mort que de dire encore son nom plusieurs milliers d'années après. Donc voilà, ne les laissons pas tomber, ils ont beaucoup de choses à faire pour nous. Les morts sont utiles aux vivants.
Merci infiniment à vous deux. Marie de Henzel, Vivre avec l'invisible, c'est aux éditions Robert Laffont, Versilio. Et Philippe Charlier, Comment faire l'amour avec un fantôme, Anthropologie de l'invisible, c'est aux éditions du Cerf. Merci infiniment.
Merci Laure.
Merci.
Et c'est avec Bad Religion de Cat Power que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore à Marie de Henzel et à Philippe Charlier. Merci à Benjamin. Benjamin Troncin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Iris Vertanessian et à Lilian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.